moi je suis en train de Mouchmaï au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la visite de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur la fréquence de la paix qui vous propose parole aux auditeurs. Madame Marie-Chantal Kanimba a été nommée directrice exécutive de World Diamond Council, Conseil mondial du diamant, une organisation mondiale ayant pour mission de rendre possible la traçabilité des diamants bruts pour prévenir leur utilisation à des fins illicites telles que la guerre. Avec sa nouvelle fonction, la Congolaise représentera désormais les intérêts des industriels de la joaillerie et du diamant, notamment dans la réforme du processus de Kimberley. Quels sont, selon vous, les préalables pour que cette nomination ait un impact sur la région, en RDC et en Afrique? Rejoignez-nous au 081-890-6380-081-890-4969 si vous voulez intervenir en direct. Le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine qui est réalisé par Nico Kalamba et Pierrot Elamegi vous le présente sous la supervision de Martin Seboujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Radio Okapi.
À Walikale.
Okapi.
Sur 104.9 FM.
Okapi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Vous pouvez nous contacter au 081-890-6380 et 081-890-6380 et 081-890-4969 si vous voulez intervenir dans ces débats. Rappelons que Mme Marie-Chantal Kanimba a été nommée directrice exécutive du Conseil mondial du diamant, une organisation mondiale qui a pour but et mission de rendre possible la traçabilité des diamants bruts pour prévenir leur utilisation à des fins illicites telles que la guerre. Avec la nomination d'une Congolaise à la tête de la défense des intérêts des industriels de la joaillerie et du diamant dans les procès de Kimberley, quels sont les préalables aujourd'hui qui peuvent accompagner cette nomination afin qu'il y ait de l'impact dans la lutte contre le trafic illicite de diamants, que ce soit dans la région et en RDC en particulier? Et pour en parler, nous avons associé en direct M. Hippolyte Mutombo-Mbebwe, ministre auprès du gouverneur de province du Kassai Oriental et ministre de la lutte aussi contre, chargé de la lutte contre la corruption, porte-parole du gouvernement provincial. M. Hippolyte Mutombo, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a associé à cet échange vu que le Kassai, l'espace, on peut dire Kassai, qui est concerné par cette question du diamant, mais aussi la question du trafic illicite. Alors, quelle est votre réaction quand il y a la nomination, mais non seulement une nouvelle personne pour diriger le Conseil, mais en l'occurrence une Congolaise? Quelle est votre réaction?
D'abord, une fierté parce que c'est une Congolaise, et encore plus une fierté parce que c'est une dame, vous savez que c'est vraiment de la femme. C'est véritablement un honneur à la femme, et fierté surtout quand je sais que c'est pas un fait du hasard, mais c'est une question de mérite.
Mm-hmm.
C'est lié à une histoire, à un CV, à un cursus, et je sais que quand je regarde son cursus, elle a travaillé énormément dans le domaine des mines en RDC, elle a travaillé dans le domaine de l'or avec Ashanti, et puis elle a travaillé avec la De Beers dans le domaine de diamants, et puis après avec Rio Tinto. Donc c'est une dame qui a véritablement un cursus qui trempe énormément dans le domaine des pièces précieuses.
Mmh.
Et ensuite, ça devrait être un atout pour notre pays, dans la mesure où elle a les éléments culturels de notre pays, notamment les langues, donc elle peut communiquer avec les exploitants des opérations du domaine minier. Elle peut également connaître facilement les contrées dans lesquelles il y a des pratiques d'exploitation minière, donc elle a la géographie du pays. Elle a travaillé longuement dans la lutte contre la corruption,
mmh.
et puis elle connaît les systèmes administratifs du pays, elle connaît les lois du pays, parce que vous savez que le régime fiscal, c'est un problème, mais également les conditions pour la fonctionnalité d'une société, c'est lié à une législation, et particulièrement pour notre pays, nous avons une législation qui régit le domaine des mines, qu'elle maîtrise bien, elle maîtrise le code minier et également tous les autres instruments juridiques, tout l'arsenal juridique lié aux mines dans le pays, mais également elle a travaillé dans des sociétés de standards internationales où il y a une certaine rigueur sur le plan de la gestion, mais également sur le plan de la discipline. Je crois qu'elle a autant d'appui et surtout qu'elle fera certainement l'honneur à notre pays dans son mandat.
Exactement, parce qu'elle a beaucoup milité dans la lutte contre la corruption et vous avez aussi, et c'est là dans vos attributions, on connaît que le secteur minier a connu beaucoup de problèmes dans notre pays, mais si nous pouvons rester dans le secteur des diamants qui est concerné par ce débat, pensez-vous que depuis l'instauration du processus de Kimberley, beaucoup de choses ont-elles été réalisées dans la traçabilité des diamants dans notre pays?
Oui, particulièrement dans le domaine des diamants, il faut le reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'histoires parce que il y a d'abord la vulgarisation même des lois et même les pipelines. Maintenant, on sait que de la production jusqu'à l'exportation, il y a des enregistrements. Il y a un pipeline qui a été défini par la loi du pays et qui a été vulgarisé par notre pays. Et c'est compris de plus en plus par les opérations minières. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la traçabilité est là, et servie notamment par la présence comme celle de l'ITIE, l'installation effective de l'ITIE dans les différentes provinces. Nous avons à tous les niveaux des records, des enregistrements qui permettent de reconstituer et de connaître d'où vient chaque pierre avec un bulletin à l'origine et tous les enregistrements sur le chemin. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un pas de franchi, et particulièrement en ce qui concerne les Kasaï, nous n'avons vraiment pas le diamant du sang. Il y a eu plusieurs contrôles avec des membres de commissions, internationales, qui sont venus et qui ont certifié que nous observons les règles. Même s'il y a certains défis qui doivent encore être relevés.
Mais on sait aujourd'hui que les diamants, surtout quand on regarde l'espace Kasaï aujourd'hui, le pourcentage élevé, c'est l'exploitation artisanale, ou deux fois aussi les circuits et la traçabilité peuvent poser problème, comme on n'a pas beaucoup d'infrastructures d'exploitation industrielle. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a la possibilité de pouvoir surveiller dans cette exploitation artisanal du diamant, la traçabilité et surtout le finish, parce que pour le processus avec le Conseil mondial du diamant, c'est que quand bien même le diamant pourrait déjà être exporté, qu'il ne puisse pas en retour contribuer à un financement aussi illicite ou entretenir un réseau mafieux par exemple. Mais est-ce que dans cette condition d'exploitation artisanale, y a-t-il moyen aujourd'hui de s'assurer de cette traçabilité jusqu'au point final du diamant?
Oui, il y a lieu de faire ici deux classes. La première classe, c'est d'abord les sociétés. Les entreprises, c'est d'autant plus facile parce que ce sont des organisations structurées qui ont des contraintes avec des rapports mensuels qu'il faut produire à la division des mines, mais également avec des devoirs vis-à-vis du service de l'État, comme je disais il y a quelques instants, avec l'ITIE, mais également avec les différentes organisations du pays qui imposent, bien sûr, une certaine ligne de conduite. Mais il y a le deuxième groupe qui est celui de coopératives avec l'exploitation artisanale. Et ici, il faut dire que nous sommes en train de résoudre de manière définitive cette question. Parce que de plus en plus, vous avez constaté que le pays est allé sur une voie de création de coopératives, de sociétés coopératives qui permettent aux miniers de travailler, au lieu de travailler en solo, de travailler en équipe coordonnée. Et ce sont des structures enregistrées par l'État, et partant, on peut canaliser la production de l'artisanat vers les circuits officiels, et ça aide d'une part, d'abord à discuter, même sur la vente de la production de l'artisanat, il y a une expertise qui intervient et qui aide ceux qui vendent à vendre à la vraie valeur, et également sur les aides sur le plan de renforcement de capacité en ce qui concerne l'épanouissement individuel. Et ça fait aussi une mise en commun des moyens qui permettent l'expansion ou la propension le système, on peut aller d'une coopérative et aller vers une entreprise plus tard. Mais également, ça canalise le fisc. En fait, en ce qui concerne les devoirs fiscaux, ils sont payés, alors que quand c'est en solo, on a de la peine à savoir qui a posé quoi. Et même au niveau déclaration, ça pose beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, je crois que nous devons aller sur cet élan-là, sur cette lancée de création de coopératives qui sont des regroupements des exploitants artisanaux dans des systèmes structurés avec des textes bien ficelés et qui permettent de canaliser la production et d'utiliser les techniques modernes dans l'exploitation et même aussi de les aider à les guider vers l'arrière des conteneurs pour rentabiliser le travail qu'ils font. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres défis qu'il faut relever. Par exemple, nous devons, s'il faut lui faciliter la tâche dans ses nouvelles fonctions,
oui,
assurer la collaboration. Il faut qu'il y ait une collaboration effective avec les services de l'État. Il faut qu'il y ait aussi cette éducation. Parce qu'il faut dire que c'est pas tous les opérateurs miniers qui sont au courant de ce qu'il faut faire, qui connaissent leurs devoirs et leurs obligations. Il faut un travail de sensibilisation, mais aussi il faut un travail de sanction. L'État joue un rôle pédagogique en amont. Et en aval, là on n'a pas écouté la pédagogie, il faut qu'il y ait la sanction et l'application de la loi avec toute sa rigueur.
Merci beaucoup, on va revenir à vous.
Nous devons, en tant que service de l'État, disponibiliser les statistiques, les chiffres, tant pour les sociétés privées que les sociétés étatiques, parce que l'État se privilège d'avoir des statistiques. Il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle, par exemple les sorties de diamants aux différents aéroports. Il y a des fois les diamants non déclarés qui sortent des provinces, alors que ça doit être scellé. Et tout ça, c'est des mécanismes qu'il faut installer aux aéroports. Il faut aussi une lutte contre la corruption elle-même, parce que il y a là où la loi est dite, il faut qu'elle soit d'application. Il ne faut pas qu'il y ait une complaisance au niveau du service de l'État. Avoir même aussi un répertoire de tous les opérateurs
de Voilà, ça c'est autant de ça c'est autant de préalables qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place pour accompagner Madame Marie Chantal Kanina. On va revenir à vous, Monsieur Hippolyte Mutombo Mbouboué. Il est temps d'écouter aussi les auditeurs. Quels sont les préalables pour la nomination de Madame Marie Chantal Kanina à la tête du Conseil mondial du diamant puisse avoir de l'impact et surtout à RDC et d'autres zones de l'Afrique où cette question de la traçabilité du diamant se pose. C'est au 081-890-63-80, 081-890-49-69 pour intervenir en direct. On va tout de suite en Boujimaï. Galvani, merci d'être avec nous. Vous nous avez contacté pour intervenir. Galvani, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Curé, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
D'accord, merci beaucoup pour la parole. Tout en félicitant d'abord Madame Chantal Kanina pour sa nomination au Conseil mondial du Japon. Parce que si je te dis que sa nomination, c'est pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle mérite, lui, son parcours, elle mérite et la RDC. C'est quand même une fierté aussi pour la RDC. Concernant maintenant les préalables pour qu'elle puisse vraiment réussir sa mission, précisément en RDC particulièrement et en général en Afrique, il y a d'abord du rôle qu'elle va jouer dans ses fonctions. Aussi, c'est un rôle où elle peut, parce que là, je crois que j'ai à consulter d'abord le site du Conseil mondial des diamants, j'ai à consulter les pays qui sont membres. On voit que ce sont les différents pays en dehors de l'Afrique aussi, mais ils ont différents intérêts. Et parfois, ces intérêts sont parfois contraires les uns des autres. Donc, il faut qu'elle puisse d'abord, qu'elle puisse fédérer, avoir la confiance de tous ces pays membres, de tous les représentants de ces pays membres, de ses conseils, pour qu'ils puissent vraiment l'accompagner dans son action. Surtout en Afrique, où nous avons beaucoup les problèmes des diamants, des conflits, des sangs, où ils posent vraiment un grand problème. Et aussi, un deuxième préalable, c'est concernant la surveillance. La surveillance des diamants qui sont sortis ou qui sont issus dans des milliers à conflit. Précisément, présentement ici, avec les Kassai, c'est un peu relatif, vu qu'il n'y a pas vraiment très de contrôle, de conflit sur ça. Mais il y a aussi du côté de l'Est, où le diamant peut être aussi exploité, mais vu qu'il y a aussi des conflits. Alors, il faut qu'elle se base plus sur la surveillance. Et si la surveillance-là, elle ne va pas agir seule, elle doit se focaliser, elle doit se baser sur le coût social, la société civile, les organisations non gouvernementales, et aussi l'État doit l'accompagner. L'État doit l'accompagner parce que étant d'abord de originaire de ces pays, donc il faut que l'RDC puisse l'accompagner dans son action. La société civile doit aussi l'accompagner en dénonçant tout diamant des conflits qui essaiera dans le milieu conflictuel, qui essaiera de sortir sans que les conflits ne soient signalés.
En parlant de la coopération, Galzani, vous avez quand même évoqué le fait qu'elle doit fédérer l'ensemble des pays membres du Conseil mondial du diamant. On a vu que tous les pays n'ont pas le même intérêt. Mais au-delà de tout, c'est la question de la surveillance. Quand on a lancé le processus de Kimberley, on se rappelle bien ce qui était comme le manque de traçabilité du diamant qui provenait soit du Libéria, soit des Sierra Leone. Et même la question de la RDC où on a encore d'autres zones de conflits et que si jamais le diamant a été exploité dans ces zones de conflits, ça pouvait poser problème. Mais au-delà de tout, il y a l'accompagnement de la société civile ainsi que celle du gouvernement congolais qui puisse faciliter à la nouvelle directrice du Conseil mondial du diamant la tâche pour qu'elle puisse bien accomplir ses fonctions. Merci beaucoup Galvani de nous avoir appelé des Mbujimayi au Kasaï oriental. On retourne ici à Kinshasa. Félicien, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auteurs de Radio Okapi et bonjour aussi à l'invité.
En tout en diminuant le volume de votre radio, Félicien, Galvani évoquait tout à l'heure le rôle de la société civile dans la dénonciation, et c'est pas seulement pour la RDC, pour l'ensemble de toutes les zones qui ont les diamants en Afrique. Pensez-vous aujourd'hui que ces ensembles des pays ont atteint déjà un niveau de dénonciation qui puisse permettre à la nouvelle directrice d'accomplir ses fonctions et d'assurer vraiment la traçabilité dans les domaines d'exploitation du diamant phénicien?
Oui, merci. Nous saluons la nomination d'une Congolaise à la tête de cette organisation. Mais nous disons que tous les garde-fous ont été déjà mis en place dans le cadre du processus de Kimberley. Mais rien n'a changé parce que la traçabilité n'est toujours pas. Les conflits à cause des minéraux sont toujours là, les guerres sont toujours là, les gens meurent à cause de ça. Mais par où passent tous ces minéraux, où vont ces minéraux, et si ce n'est pas en Occident? Donc, moi je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas le fait des Congolais ou des Africains, mais plutôt des Occidentaux qui ont décidé depuis, je sais pas, la conférence de Berlin, que les richesses du bassin du Congo ne devaient pas appartenir aux Africains, en général aux Congolais en particulier. Et ils sont en train de mettre, ils ont mis toutes les stratégies en place pour que il y ait cette cacophonie, enfin, que nous ne puissions pas bénéficier de nos richesses. Parce que les guerres, c'est eux qui donnent les armes, c'est eux qui vendent les armes à tous ceux qui viennent faire des guerres. Et puis, les minéraux sont vendus en Occident parce qu'aucun pays africain n'a la possibilité de transformer ces minéraux. Et puis, ils viennent ils endormir avec les processus de Kimberley, la nomination sont des Congolaises et tout ça, mais pour arriver à quel résultat? Et nous vivons cette vie et cette situation jusqu'au jour où, entre ils vont dire qu'ils ont trop fait souffrir les nègres, et qu'on puisse quand même penser comme on avait fait avec l'esclavage, et comme on avait fait avec les indépendances, mais par nous-mêmes c'est difficile parce que ils ont pris non, des gens comme leurs valets et ce sont eux qui les aident à faire ce qu'ils sont en train de faire, l'Afrique en général, et les Congos en particulier, est esclave à cause de ses richesses. Et c'est l'Occidental qui peut décider de les libérer si peut-être une révolution peut arriver, mais c'est avec une classe politique africaine, en général les Congolaises, très très médiocres, très corrompues. Et vraiment, les lendemains n'est pas meilleur.
Alors, pensez-vous, Félicien, depuis l'instauration du processus de Kimberley, on a vu quand même qu'il y avait cette question du diamant du sang, que ce soit au Libéria, Sierra Leone, si on peut revenir en RDC, qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'améliorations aujourd'hui, qu'il y ait quand même des zones qui ont été stabilisées, que ce soit en Afrique de l'Ouest, et que les diamants exploités soient canalisés aujourd'hui d'une manière assez claire. Mais est-ce que le fait qu'il y ait des foyers de tension, est-ce que c'est une question de pouvoir public occidentaux ou c'est une question de groupes mafieux et des intérêts pour lesquels exactement, en nommant Mme Kanida, il y a tous ces problèmes qui peuvent l'accompagner pour arriver vraiment à toucher même le pouvoir public occidentaux qui peuvent avoir une influence sur les groupes mafieux, les groupes des trafics pour enfin mettre fin à ce foyer de tension qui, effectivement, fragilise le processus et occasionne la fuite de ces minéraux, en particulier les diamants féliciens.
Oui, mais moi je dis que si ceux qui utilisent ces diamants-là au niveau de l'Occident décident de ne pas vraiment avoir ces diamants-là à distance, ils ont tous les moyens. Mais tout le temps, ils mettent des stratégies en place, mais qui n'aboutissent pas. Mais les diamants sortent toujours, ils vont toujours et on l'utilise toujours là-bas. Bien sûr qu'il y a des complices en Afrique, il y a des complices en RDC, mais les grands bénéficiaires de ça, et ceux qui veulent que nous soyons dans une situation de cacophonie pour qu'eux puissent avoir aussi facilement tous ces minéraux à vil prix, ce sont eux, ce sont les Occidentaux. Ils n'ont pas la volonté que l'Afrique se développe. Ils ne veulent pas que nous puissions vraiment être économiquement indépendants. Nous, ils veulent que nous dépendions d'eux. C'est pourquoi ils nous imposent même des dirigeants et qu'ils sont à leur solde. Donc c'est un peu difficile, mais peut-être qu'une révolution pourra arriver, mais avec tous ces mécanismes qu'on met aujourd'hui, qu'on change demain, ça n'a pas résolu.
Merci beaucoup Félicien. Vous estimez que la volonté de faire aboutir les processus de traçabilité des diamants ne peut provenir que du terminal, cela veut dire des pouvoirs occidentaux, le terme que vous avez utilisé, c'est de leur volonté qu'on peut arriver aujourd'hui à résoudre la question de la traçabilité. On reste ici à Kinshasa avec vous Félicien, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Cathy.
Pensez-vous, comme Félicien l'a dit, que tout dépend de la bonne volonté ou bien avec l'engagement des pays africains eux-mêmes et la RDC en particulier, on peut arriver à avoir de mécanismes qui accompagnent le Conseil mondial du diamant qui est dirigé maintenant par une Congolaise pour et arriver à bout de la corruption dans les secteurs et puis assurer vraiment une traçabilité efficace.
Oui, merci beaucoup Pierrot. Nous devons savoir que à la promulgation du code minier en 2002, les espoirs du peuple congolais étaient permis. Mais très rapidement, la population a déchanté suite au mauvais comportement de certains opérateurs économiques du secteur et des autorités politiques du pays caractérisées par d'offres ou demandes de pots de vin, des paiements illicites reçus, des fausses déclarations d'importation, de détournement, ainsi de suite, des conflits d'intérêts des autorités de l'État qui détient des parts dans les sociétés qui exploitent les diamants, d'abus de pouvoir pour influer sur les décisions de l'État. Ceci veut dire que la nomination de cette Congolaise à la tête de cette organisation internationale représente beaucoup d'enjeux au moment où Pierrot, nous subissons les chocs exogènes dus à la baisse ou à la chute drastique des cours de matières premières au niveau international. Voilà, ce que nous demandons à la Congolaise qui est nommée à la tête de cette organisation, c'est de militer pour l'éradication des mauvais comportements antérieurs liés à l'exploitation et au commerce de diamants. Cela veut dire quoi? Cette Congolaise doit proposer que toutes les pertes financières subies par la RDC depuis la promulgation de la loi minière en 2020 soient sujettes d'investigation. Et on doit mettre en place une commission d'antifraude et pour que soit éclairé et pour que tout le monde sache ce qui se passe dans le secteur de l'or. Et de deux, nous insistons encore sur l'éradication des mauvais comportements actuels liés au commerce et à l'exploitation des diamants. À partir de là, madame doit faire en sorte que la lutte contre la fraude soit entreprise et que tous ceux qui sont pris dans ces mauvaises pratiques soient poursuivis en justice.
Merci beaucoup. Oui, mais c'est vous avez beaucoup insisté sur le code minier. Notre invité le disait tout à l'heure qu'il a mis de mécanismes, hein. Mais il y a aussi des mécanismes de collaboration sur le plan international dans les cadres de la certification. On l'a vu avec le certificat de la certification de la CIRGEL pour des minerais qui viennent de la sous-région. Alors, vous estimez que madame devrait militer pour l'élimination de la fraude. C'est pourquoi notre ami Galvani estime que la société civile congolaise peut l'accompagner dans la dénonciation. Et Félicien, lui, estime que tout ne peut venir que de la volonté de partenaires extérieurs. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à vous, Cyril. Vous êtes à Bandundu. Après, 081-890-63-80 et 081-890-49-69, c'est les deux numéros pour intervenir en direct dans ce magazine.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mairie. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Nous revenons à vous, monsieur Hippolyte Mutombo. Vous avez suivi nos intervenants. Hein. Il y a, au-delà de la question de l'engagement de la RDC pour accompagner la nouvelle directrice, mais il y a aussi cette question d'appréhension des Féliciens. Mais cela veut dire aussi longtemps qu'on aura des gens qui vont acheter les diamants illicites à l'extérieur de l'Afrique, il y aura toujours de ceux qui vont exploiter d'une manière illicite. Et pensez-vous aujourd'hui que ce soit les pays africains, la RDC en particulier, ceux qui sont insérés dans le domaine du diamant, ainsi qu'au niveau de la communauté internationale, y a-t-il aujourd'hui un franc jeu dans la mise en place des mécanismes efficaces de traçabilité et de lutte contre la fraude dans ce secteur? Pour placer un mot par rapport à ce qui a été dit par nos compatriotes tout à l'heure.
Oui, M. Pierrot, il faut reconnaître que les mécanismes existent, mais ils doivent être renforcés et rendus de plus en plus opérants. Il est aussi vrai que l'avantage que nous avons, c'est que la Mme Marika Chantal Kaninda a travaillé dans la coordination, comme je disais, avec des sociétés internationales, et elle a l'idée. Elle a visité presque tous les pays qui, en tout cas des grands producteurs de diamants. Mmh. Elle a eu l'occasion de les visiter en commençant par la RDC, ensuite il y a la République sud-africaine. Et il y a la RCA, elle a été déjà là-bas, elle a été en Guinée, elle a été en Namibie. Donc elle a vu physiquement ces mines et a vécu les réalités de chaque pays. Je crois que c'est un atout majeur. Mais il reste vrai que dans tout ça, s'il faut qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait la paix dans ces pays. Parce que quand nous parlons de diamants de guerre ou de destin, c'est essentiellement dans des zones où il y a des guerres, où il y a des rébellions qui ont occupé des gisements et qui exploitent de manière illicite. Et faudra-t-il que dans l'ensemble des pays où il y a exploitation du diamant, qu'il y ait la paix. Et je pense que là, il y a besoin de l'accompagnement de chaque pays pour qu'il y ait effectivement la paix dans des contrées où s'exploitent les diamants. Mais particulièrement, en RDC, les problèmes se posent un peu moins parce que la production de l'exploitation artisanale, même industrielle, du diamant, c'est essentiellement au centre de la RDC, avec l'espace Kasaï, mais également, on peut prendre la partie nord avec l'Équateur et la province orientale. Ce sont des zones qui aujourd'hui ont des petites rébellions, des petits foyers de tension, mais qui ne posent pas beaucoup de problèmes de diamants de sang. Mais dans notre pays, ce système doit beaucoup être renforcé sur les plans de la saisie. Il faut que ce soit capté. Les diamants doivent être captés déjà à partir de la sortie du puits. Et au fur et à mesure qu'il va, il se vend jusqu'enfin à être exporté. À chaque étape, il faut qu'il soit capté. C'est là où on doit plus organiser les services que l'État a déjà mis en place. En l'occurrence, nous avons le CESCAM, nous avons également le CESP, et nous avons également les différents services des mines, la division des mines avec le ministère des mines qui doivent l'accompagner véritablement pour que, à chaque étape de l'évolution du processus de commercialisation,
mm-hmm.
il y ait une saisie des données telles qu'on puisse avoir une traçabilité assez claire. Mais dans tout ça, je soutiens que effectivement les organisations de la société civile doivent soutenir ce mécanisme chaque fois en dénonçant ce qui dysfonctionne et en dénonçant toute manœuvre de fraude ou de corruption. Parce que la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Si tout le monde est conscient de la nécessité, et le message s'applique et puis on peut imposer la discipline dans les circuits commerciaux du diamant.
Mais quand on sait aujourd'hui...
Je suis tout à fait d'accord pour l'accompagnement de l'État, pour l'accompagnement de la société civile. Mais évidemment, il y a des structures qui existent qu'il faut renforcer. Et c'est déjà un atout, le fait qu'il y a déjà des bases qui fonctionnent et qu'il faut renforcer pour avoir l'efficacité qu'il faut sur le terrain en termes de contrôle de la traçabilité.
Voilà, mais quand on sait aussi, à côté de la RDC, il y a la République centrafricaine qui connaît encore une situation d'été précaire avec des groupes armés, est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait aussi des mouvements de trafic illicite qui puissent partir de la Centrafrique en passant par la RDC, vous l'avez dit bien sûr, où les régions, les provinces du Nord où il n'y a pas de problème d'insécurité aujourd'hui. Mais quand même, on peut, en termes de prévention, avoir des mesures efficaces au niveau du nord du pays pour voir comment on peut gérer la situation dans les zones qui sont frontalières avec la République centrafricaine qui connaît aujourd'hui quand même des problèmes sérieux d'insécurité avec la multiplicité des groupes armés.
Il faut certainement dire, M. Pierrot, que dans les différents aéroports du pays, c'est d'ailleurs des efforts que nous déployons ici au Cap Oriental. Vous verrez que dans les jours qui viennent, il faudra qu'on arrive à un mécanisme, comme par exemple l'installation de scanners. Vous venez de notre pays, vous passez par là, on doit s'assurer que vous ne portez pas les diamants qui viennent d'ailleurs. Et si vous les portez, vous devez les déclarer conformément aux règles et lois en vigueur dans notre pays. De la même manière aussi, quand vous avez un diamant, par exemple, du Qatar oriental, bon, avant de sortir du Qatar oriental, vous devez le déclarer, il doit y avoir un scellage, il doit y avoir une fiche, et ensuite, ça s'accompagne jusqu'à Kinshasa, et même au niveau de l'exportation. Mais pour réussir cela, comme les diamants, c'est quelque chose qui est facilement camouflable, on peut le cacher, c'est généralement des petites quantités, des petits volumes. Alors, il faut qu'on arrive à installer, par exemple, des systèmes de contrôle dans les aéroports, comme le scanner. Et vous verrez que ici au Kassai, nous pourrons déjà disposer d'un scanner au niveau de notre aéroport.
Dans Merci. Le
nous avons des contacts pour... parce que finalement, ça se camoufle et ça se transporte, ça s'exporte sans être déclaré. À ce niveau-là, il y a effectivement, s'il n'y a pas de contrôle au niveau des entrées, il y a la possibilité que des pays qui sont en guerre puissent nous envoyer les diamants de guerre, qui va se faire enregistrer. Forcément, comme si c'était une production de la RDC. Donc je pense qu'il faut renforcer le contrôle au niveau des entrées, pour que finalement celui qui a les diamants camouflés soit identifié.
Alors on va écouter Cyril qui est à Bandundu. Merci d'être avec nous. Cyril, bonjour.
Monsieur Monari, bonjour à la Radio Capi, bonjour au peuple congolais.
On vous écoute, Cyril.
Bon, merci, très monsieur le journaliste. Je voudrais de prime abord vous remercier pour ce sujet. Là, je congratule Madame Marie-Chantal Kalinda pour sa nomination à la tête de cette organisation internationale. Étant donné qu'elle a un cursus équilibré costaud dans ces domaines, avec elle, on peut compter sur une bonne communication, sans réciproquité. Répétite dans ce communiqué aussi. Hein. Quant à la question de la traçabilité et la lutte contre le trafic illicite, ce journaliste, c'est une épineuse question et une préoccupation du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans ces secteurs. Vous savez, je suis en province. C'est aussi une préoccupation. Je suis en province, donc, en fait, dans la province du Kwilu. Et même aussi le gouverneur de province, là, notamment, je cite le gouverneur Godel Kidjara Kabalumuna de notre province, il est aussi en train de faire
de messages et des communications pour relancer ces secteurs dans sa province. Monsieur le journaliste, Madame Chantal Kaminda, c'est vrai, sa venue, nous dans les Congos, dans la rue d'entrée du Congo, nous sommes en train de nous rassurer qu'elle va accompagner aussi notre pays dans ces domaines. Vous savez, ce que je peux dire ici, les processus de Kimberley, c'est vrai, a eu beaucoup d'impact sur la traçabilité dans les domaines pratiquement miniers. Mais cette question ici, si vraiment cette dame veut réussir dans tout ce qu'elle a comme fonction assumée, elle faut, pratiquement il faut qu'il la applique, pas applique, mais qu'elle fasse tout sur la mise en place d'une application de la loi du code minier avec rigueur. C'est vrai, avoir un peu aussi le répertoire des opérateurs miniers à travers toute l'Afrique et toute la République démocratique du Congo. Et aussi je propose, en passant, qu'elle puisse installer une police minière au sein des entreprises minières et auprès des exploitants miniers. Parce que là où ça pose problème, s'il n'y a pas une police, c'est vrai, il ne pourra pas contrôler le trafic de mines.
Mais à ce niveau-là, Cyril, je crois bien que c'est une question aussi de politique interne, la police minière. Notre invité a évoqué tout à l'heure le CESCAM, il a parlé de CEC, il y a autant de structures, même pour la question de l'or au niveau de l'exploitation artisanale, il y a aussi une structure, un mécanisme qui a été mis en place dernièrement pour lequel on a eu un débat dans parole aux auditeurs. Mais là, vous estimez que c'est au niveau de la volonté politique en RDC qu'on peut avoir de mécanismes nécessaires qui puissent accompagner le travail de la nouvelle directrice tout en la soutenant. Merci beaucoup, Bintou. Vous êtes à Kimpese. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Et au niveau de ces préalables qui peuvent accompagner le travail de Madame Marie-Chantal Kaminda, les gens sont revenus sur la volonté politique. Mais quand on parle de trafic, c'est la vérité qu'il y a des systèmes qui sont entretenus par des groupes mafieux, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, qui dépassent des fois même le pouvoir public ou bien le service de l'État. Mais comment, d'une manière efficace, comment on peut y arriver, Bintou?
Merci beaucoup. Bon, je vais intervenir sur quatre petits points. Le premier point, je commence d'abord par féliciter Mme Chantal Kaminda de sa nomination à la tête d'une très grande organisation mondiale. Évidemment, cela prouve à suffisance que la femme congolaise est capable de beaucoup de choses et elle est mise dans de bonnes conditions. Mm-hmm. Et puis, demander à tous les parents de faire éduquer aussi les filles, comme on éduque les garçons, surtout dans la province où elle est ressortissante du Kassai oriental, où l'éducation des filles est souvent négligée. Deuxième petit point, le travail qui attend Madame Chantal Kaminda est titanesque. Je sais qu'elle aura beaucoup de difficultés, mais ce qu'elle peut faire dans un premier temps, en plus de d'autres activités de la taille pour réussir la traçabilité afin de contrer tout ce qu'il y a comme fraude en ce qui concerne les diamants et puis des conflits dans notre pays et à travers le monde. Bon, ce qu'elle peut faire pour aider la province du Kassai oriental et aider son pays, c'est plus qu'elle doit plaider au plus de bailleurs de fonds pour permettre à ce que le pays puisse disposer ne fût-ce que d'une industrie de taillerie. Parce que moi, je ne comprends pas que la RDC est parmi les grands producteurs du diamant jusqu'à aujourd'hui, mais nous n'avons aucune industrie de taillerie. Et même dans la province du Kassai oriental, qui est considérée comme la capitale mondiale du diamant, où vous recevez le ministre qui est en charge de cette question, mais il n'y a aucune industrie du taillerie. Si on commence d'abord par donner une valeur ajoutée à ces diamants-là au niveau local, ça va aussi réduire sensiblement des fraudes et créer de l'emploi. Si elle peut aussi faire un plaidoyer dans ce sens-là, ça va aider le pays et la province du Kassai oriental ou de l'espace Kassaïen ou d'autres espaces comme les bandes d'Indoula où se trouvent les diamants, la province orientale et d'autres provinces de notre pays qui disposent de ça. Étant donné que pour faire la taillerie, il faut que les enfants se déplacent en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui nous manque, nous, pour avoir une industrie de taillerie afin de donner une valeur ajoutée à nos diamants? notamment, fait créer d'autres emplois. Le troisième petit point, c'est je voudrais intervenir sur le plan local. Localement, les autorités provinciales doivent améliorer la gestion du secteur minier et surtout la perception des taxes qui ne doivent pas se transformer en une sorte de tracasserie. C'est bien que la province puisse disposer des taxes provenant des diamants afin de permettre à la province de fonctionner normalement et au pays d'encaisser de l'argent. Mais les autorités provinciales, apparemment, ont des difficultés à distinguer les affaires commerciales publiques et la perception des taxes. Il faudrait qu'ils puissent distinguer, même si ceux qui dirigent la province sont des hommes d'affaires, ils doivent faire la différence entre la vie publique et les affaires privées. Parce que la plupart des diamanteurs ou des castaillers, des jeunes castaillers qui sont dans les diamants, sont en train de fuir la province à cause de la crise économique, mais aussi à cause de la tracasserie administrative dans la province. Sur ce point-là, ils doivent vraiment corriger pour permettre à ceux qui veulent habiter les castaillers et faire les diamants, qu'ils le fassent dans toute tranquillité et qu'ils payent les taxes normalement et qu'ils n'aient pas trop de tracasserie sur ce point-là sur le plan local.
Merci beaucoup, Bintou. Et la question de l'industrie des tailleries, elle est très importante. Vous estimez que c'est un des préalables hein, qui puisse accompagner le travail de Mme Marie-Chantal Kaninda. Si on peut avoir, par exemple, en RDC, une industrie des tailleries du diamant, c'est un grand pas pour effectivement éviter la fraude ainsi que l'exportation illicite de cette pierre précieuse. Merci beaucoup, Bintou. Alexis, vous êtes à Kisangani. Merci d'être avec nous. Bonjour, Alexis.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Alexis.
Oui, monsieur le journaliste, c'est sûr que nous sommes contents de voir notre fille être élevée à la place des directrices exécutives de la société mondiale, bien sûr, des diamants. Mais nous devons savoir une chose, parce que les Congolais ne mettent pas l'idée de dire que comme c'est notre fille qui est là, ils doivent maintenant chercher toujours à montrer leur position de fraude partout comme ils ont toujours tendance de le faire. Et ils doivent aussi savoir, faisant de tels comportements, ce n'est pas honorable pour notre pays. Donc, d'une manière générale, nous devons faire une attention parce que l'histoire aussi de la CPI peut nous donner une leçon. C'est l'Africaine qui est à la tête de la CPI, mais souvent les pays africains continuent à contester vraiment tout ce qui se passe au niveau de la CPI. Pendant que...
Oui. Mais ce que vous avez dit, c'est intéressant, Alexis, en évoquant la question du trafic d'influence, vous estimez que le Congolais, la RDC, ne pourra pas dire voilà, parce que on a une ressortissante qui dirige ces conseils mondiaux du diamant, c'est pour nous une occasion de se lancer dans les trafics d'influence et de renforcer ce qui des pratiques interdites, mais pour vous, c'est plutôt l'occasion de pouvoir consolider, que ce soit le mécanisme à l'interne ou à l'externe, comme le disait les compatriotes tout à l'heure, pour arriver vraiment à l'accompagner dans son travail. Ingénieur Valérie, vous gardez la ligne, on revient à vous, monsieur Hippolyte Mutombo. Pourriez-vous placer un mot? Parce qu'il y a cette inquiétude présentée par Bintou, c'est un préalable assez important quand il évoque la question de l'industrie de taillerie aujourd'hui, et que c'est aussi longtemps qu'on n'en aura pas, ça ne peut pas permettre aussi à ce que le trafic illicite soit combattu, et pour ça il s'étonne que la RDC avec le Kasaï oriental, comme on a toujours appelé capitale mondiale du diamant, se retrouve à la traîne et qu'on n'ait pas une industrie des tailleries. Quand même, c'est un préalable détail, monsieur Hippolyte Mutombo.
Tout à fait, mais ce qui reste vrai est que la loi de notre pays permet à chacun de vendre les diamants dans l'état où il le veut et partout où il veut. Chacun est libre. Mais il reste vrai que nous avons besoin de la valeur ajoutée. Et si nous avons une industrie de taillerie, par exemple, dans le Kasaï oriental ou au pays, c'est beaucoup de devises pour le pays de gagner. Alors pour y arriver, je sais qu'il y a eu quelques tentatives, notamment, vous rappellerez, il y avait un lavage obligé avec Diablan, et puis dans le Kasaï central, notamment à Kananga, il y a eu une industrie de taillerie qui était installée, mais il faut des mesures d'accompagnement. Par là, je vois par exemple qu'il faut soit renforcer les conditions pour ceux qui exportent en brut,
leur poser, imposer certaines taxes pour les décourager et les obliger à tailler au pays, ou alors carrément poser ça comme une loi. Il faut voir avec notre assemblée, notre parlement, et ou encore avec les assemblées provinciales, si on ne peut pas trouver une fenêtre dans la loi qui impose à chacun avant d'exporter de tailler, ajouter une valeur pour que finalement on puisse sauver quelques devises pour le pays. Donc c'est faisable. Il faut d'une part trouver les moyens d'investissement et d'autre part des mesures d'accompagnement, par exemple dans le renforcement des conditions d'exportation pour ceux qui exportent brut, leur imposer certaines taxes pour les décourager à faire tailler localement, ou alors prendre une loi qui impose de tailler. Il y a aussi, on a parlé de, il y a l'un des auditeurs qui a parlé de la police minière.
Oui.
Je crois qu'il y a déjà ça, parce que dans toutes les entreprises minières, il y a les délégués de la division des mines qui font pratiquement ce rôle de police minière, mais faut-il qu'ils soient de personnes intègres qui puissent faire observer les règles scrupuleusement pour que la chaîne soit respectée, les déclarations soient faites correctement, que ce soit des vraies déclarations. Enfin, là-dedans aussi, je voudrais placer un mot pour les enfants dans les mines, qui sont aussi un autre risque, c'est un problème à résoudre réellement, et c'est une épine dans le pied hein, du pays, parce que il faut arriver à trouver une bonne politique pour sortir les enfants qui sont dans les mines.
Mmh.
Et
voilà.
Ce soir, quand on utilise la police à la force, ça ne réussit pas. Et il y a un projet que nous avons conçu ici pour amener même les écoles dans les mines, transformer ces enfants qui étudient. On amène les écoles à proximité. On a les projets des écoles mobiles qui amènent les enseignants dans les écoles pour apprendre certains métiers à ces enfants et leur donner le goût aux études. Donc c'est une autre question qui fait partie des défis qui attendent Madame Marie-Chantal.
Voilà. On va écouter rapidement les deux derniers, je crois, bien auditeurs, hein, l'ingénieur Valérie Lekindou et Eric qui est à l'ICACI. On revient à vous pour chuter. Ingénieur Valérie, merci d'être avec nous. La question de la taillerie, hein, elle est très très importante, mais est-ce que pensez-vous aujourd'hui qu'on puisse avoir des mécanismes plus efficaces d'avoir ces préalables? Mais est-ce que le Conseil mondial du diamant peut accompagner la RDC à se doter d'une telle industrie et qui puisse permettre à ce qu'on ait un flux assez surveillé et contrôlé aujourd'hui dans ce secteur? Valérie, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour aussi à l'invité. Je crois que l'implantation d'une industrie de taillerie ne relève pas vraiment des objectifs du Conseil mondial. Ça, c'est en interne, avec le gouvernement de la République. Ou
non, je parlais, on a évoqué l'accompagnement et l'accompagnement, oui.
Oui. Alors, je suis content que ce soit le ministre des Mines qui est là. Donc, étant donné que cela aussi relève des compétences, disons, exclusives des provinces, les provinces peuvent aussi investir dans ces domaines-là.
Mm-hmm.
Moi, je pense qu'ils peuvent bien enchaîner la machine et aller au-delà. Et à part la taillerie, il y a même aussi la désoxygénation. Il arrive des fois aussi qu'on peut désoxygéner, ça accroît la valeur ajoutée. Alors, maintenant par rapport au préalable, je me dis ceci. Le diamant qui pose problème, heureusement que le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est pas le diamant de Kaemba, de Chikapa, de Mbujimaï, mais c'est plus en province orientale, par exemple, par-ci par-là. La partie où donc nous avons la guerre. Mais alors, moi je préfère que pour bien rendre cette mesure coercitive, que l'État congolais ait aussi l'habitude de porter plainte aux pays qui vendent nos minéraux auprès de la Cour internationale de justice. Parce que nous en avons les droits, mais pourquoi nous ne les avons pas? Nous devons user de ces droits-là. Il y a des pays qui nous vendent du coltan, de ceci, cela, à notre vie, et nous ne faisons aucune réaction. Deuxièmement, le ministre peut bien établir de très bonnes relations avec les conseils mondiaux du diamant, parce que c'est dans leurs compétences, afin de suivre régulièrement la situation et voir, recevoir les informations qui nous seront utiles pour améliorer les rendements ici, et pour là, nous pouvons aussi réagir afin d'améliorer les nôtres. Concernant par exemple le problème du scanner, je suis dans les divers, toujours en rapport bien sûr avec le sujet, je suis vraiment désolé de voir que la province jusqu'au niveau où la RDA ne l'a jamais dotée d'un scanner, alors que cet aéroport vient en troisième position, je crois, par rapport au trafic aérien ici en République démocratique du Congo. Que le gouvernement fasse un effort parce que ça occasionne marque à gagner. Pour terminer, je voudrais aussi répondre à un ami dont j'étais le nom par contexte, parce que vous savez, notre émission est très suivie, les gens voient ce que nous disons, c'est correct. Et il y a un ami qui a dit qu'au Kassai oriental, on n'éduque pas les filles. Je voulais lui dire que c'est quand même trop fort. Je crois qu'en public, on doit éviter certaines choses.
Voilà, oui, Valérie, je crois que c'est vis-à-vis tout.
On ne peut pas laisser l'école en 1960 en Boujimaï.
Oui. En fait, au-delà de la polémique autour de cette question, si je me rappelle bien, c'est Bintou qui disait tout à l'heure le fait que Madame Marie-Chantal Kaninda soit nommée directrice, c'est une façon de pouvoir encourager quand même les parents à envoyer les filles à l'école comme on envoie les garçons. Mais il a parlé du faible en termes de la négligence et la scolarisation de la fille au Kassai oriental. On se rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'améliorations aujourd'hui dans la scolarisation de la jeune fille dans l'espace Kassai, mais ça s'est posé, il y avait des problèmes qui se posaient dans les temps. C'est ce qui a souhaité que la nomination de Mme Marie Chantal soit un encouragement pour les parents à pouvoir envoyer les filles à l'école au-delà de toute la polémique. Mais vous avez quand même évoqué, Valérie, le fait que même au niveau du gouvernement provincial, il y a moyen d'établir des contacts et des collaborations avec le Conseil mondial du diamant pour voir comment on peut mettre en place ces mécanismes et surtout et votre souhait est de voir l'État congolais porter plainte quand il y a des minerais qui ne sont pas produits dans un pays mais que ces pays-là sont en train d'exploiter pour qu'on soit sûr. Et je crois que c'est à ce niveau-là que la CIRG a pu instaurer un certificat les documents de certification de minerais dans la sous-région pour qu'un pays qui ne produit pas les minerais ne soit pas exportateur sans qu'il y ait la traçabilité et la confirmation de l'origine de ces minerais. Merci beaucoup Valérie. On va terminer avec vous, Eric Kabongo. En 30 secondes, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue? Vous êtes à Likasi, Eric. Bonjour.
Bonjour, maintenant ma contribution, je demanderai seulement que toutes les couches politiques puissent maintenant travailler en synergie, en coopération pour aider à cette dame qui puisse maintenant assurer la survie des matières telles qu'on dit en LDC. Et à cela, par exemple, favoriserait qu'il y ait la croissance et la croissance assez tôt des éducations et d'autre part dans ce gouvernement, comme c'est le milieu de passe. Merci.
Merci beaucoup, Eric. On revient à vous, messieurs. Hippolyte Moutombo-Mboubois, vous avez suivi les uns et les autres. On peut terminer. C'est pas la dernière émission. On pourra aussi voir quand elle aura déjà commencé son travail, quelle pourrait être la collaboration de la RDC avec Mme Marie-Chantal Kaninda pour l'aider dans ses fonctions. Peut-être y revenir dans un débat encore d'une manière plus élaborée avec l'impact des plus les résultats. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut rétablir autour de cette question qui était d'abord liée au préalable pour l'accompagner?
Je vais conclure en ramassant rapidement les préoccupations des derniers intervenants. En l'occurrence, il y a un intervenant qui a parlé des oxygénés, c'est pertinent. Je parlais tout à l'heure de Diablon, c'est une expérience qui a déjà été tentée au pays. Mm-hmm. Et même par rapport à la taillerie, il faut absolument qu'il y ait un investissement. Je dis qu'il faudra soit qu'il y ait un investissement de l'État ou un investissement privé, mais il faut que ce soit encouragé par des mesures qui vont être beaucoup plus coercitives pour ceux qui exportent des diamants bruts pour les empêcher d'aller vers les circuits d'exportation des diamants bruts. Il faut créer des contraintes pour qu'ils aillent vers cette taillerie et qu'elle soit fonctionnelle. Et par rapport au circuit et à l'échange des informations avec le milieu international, oui, il y a une mutualisation. Il y a même, au niveau du pays, il y a une commission antifraude qui a été créée par l'État congolais, où se trouvent d'ailleurs certains membres de CSC, notamment le DGA. C'est une commission qui existe, mais il y a une chaîne qui est bien constituée, qui part de la production du diamant en large. Il y a une fiche appropriée, et à tous les niveaux, il y a des enregistrements qui doivent être faits. Il y a une chaîne jusqu'à l'exportation, telle qu'il y a une mutualisation de données entre les milieux internationaux et les milieux de notre pays. Donc il n'y a pas de souci par rapport aux échanges d'informations. Par rapport à l'éducation de la jeune fille, vous l'avez dit vous-même, c'est une question de l'histoire aujourd'hui. Au Kassai, je pense que c'est parmi les provinces qui présentent les meilleurs taux de scolarisation des filles. Donc il n'y a plus de soucis, c'est une question qui appartient à l'histoire et le gouvernement s'est beaucoup investi sur la question des scanners à l'aéroport. C'est vrai, et nous sommes en termes de top, nous sommes parmi les top 3 ou même les top 4 ou 5 du pays, parmi les aéroports les plus fréquentés.
qui mérite d'avoir un
merci.
Salaire.
Merci donc, beaucoup.
Nous avons droit, ça vaut bien pour... si l'État peut nous assister, le gouvernement central peut assister à ça. Tant mieux. Sinon, nous avons un projet au niveau de la province.
Merci donc, beaucoup. Merci beaucoup, M. Hippolyte Moutombo-Mboubwa. Merci d'avoir été avec nous. Il nous reste pour le moment à souhaiter bon vent à Mme Marie-Chantal Kalinda dans ses nouvelles fonctions. Merci à toute l'équipe des productions des paroles, aux auditeurs Nico Kalambay et au standard et à la réalisation. Jean-Noël Mokondo était à la mise en monde. Pierrot Lamiji vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. Paroles aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.
L'émission Paroles aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.